Le débat du jour. Aurélien Devernoy.
Actuellement, la France est l'un des pays au monde où les droits d'inscription des étudiants internationaux sont les plus faibles. Un étudiant étranger issu d'une famille fortunée qui vient en France paye le même montant qu'un étudiant français peu fortuné dont les parents résident, travaillent et payent des impôts en France depuis des années. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est absurde et je crois même qu'il y a là quelque chose qui est injuste. Nous avons donc décidé que les étudiants internationaux qui ne résident pas dans l'espace économique européen paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation.
Bonsoir à toutes et à tous. Celui que vous venez d'entendre, c'est le Premier ministre français Édouard Philippe qui annonce de manière très indirecte l'augmentation massive des frais d'inscription à partir de la licence pour les étudiants étrangers non résidents en Europe et ce dès septembre 2019. Des frais qui vont être multipliés par 13 en moyenne, de 170 à 2770 euros pour une licence, de 243 et 380 à 3770 en master et doctorat, ce qui inquiète beaucoup les étudiants les plus modestes et notamment ceux venus d'Afrique. L'objectif, à moyen terme, c'est que ces fonds dégagés améliorent la qualité de l'accueil et attirent davantage d'étudiants. Alors, faire payer plus pour accueillir plus, c'est notre débat ce soir. Pour en parler avec nous, Pierre Van de Weg, vice-président de l'Université de Rennes 1, bonsoir.
Bonsoir.
Et Léonard Moulin, chercheur à l'Institut National des Études Démographiques et membre du collectif des économistes atterrés, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, cette décision du gouvernement français a suscité une certaine émotion. Plusieurs tribunes ont été publiées dénonçant un accroc dans les valeurs de l'université française. On va commencer avec vous, Léonard Moulin. Qu'en pensez-vous ?
Alors, ce que je pense, c'est qu'effectivement... Cette réforme est problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va modifier la composition sociale des étudiants qui vont arriver en France. On ne sait pas si ça va avoir d'effet sur le nombre d'étudiants qui vont venir en France. Par contre, ça va avoir un effet certain sur qui sont les étudiants qui vont venir en France. Aujourd'hui, en gros, il y a trois types d'étudiants qui viennent en mobilité en France. Il y a ceux qui ont une bourse de leur gouvernement ou une bourse du gouvernement français. Ensuite, il y a ceux dont les parents peuvent payer leurs études. Donc, ces deux catégories-là sont pas du tout inquiétées par la hausse des frais d'inscription. Mais il y a une troisième catégorie qui est ceux qui économisent dans leur pays d'origine pour atteindre le montant requéri pour obtenir un visa en France, qui est 615 euros par mois fois 12 mois, donc 7380 euros, et qui travaillent une fois qu'ils arrivent en France pour payer la suite de leurs études. Et donc, on peut imaginer que sur ces étudiants-là, il va y avoir un vrai effet négatif qui sera lié à la hausse des frais d'inscription.
Alors, Pierre Van de Weg, vous êtes en faveur de cette mesure. En quoi, selon vous, est-elle indispensable au vu des chiffres que vient de présenter Léonard Moulin ?
Alors, la première chose, c'est qu'on a parfaitement conscience de l'impact que ça va avoir sur les populations étudiantes. Quand on regarde ce qui s'est déroulé dans d'autres pays auparavant, et je pense au nord de l'Europe, il y a eu des baisses conséquentes du nombre d'inscrits d'étudiants internationaux. Ça va de 20 à 40 à 50%, voire même 70% dans certains cas. Mais ce qu'on a aussi noté, c'est que ça s'est régulé très rapidement et s'est remonté à des taux classiques. C'est-à-dire que des pays qui avaient eu de fortes baisses du nombre d'étudiants internationaux, 3 à 4 ans plus tard, ils ont retrouvé les chiffres auparavant. Donc on peut imaginer également en France avoir à peu près le même type d'impact, évidemment avec des baisses qui ne seront pas les mêmes suivant l'origine de ces étudiants et souvent l'origine géographique et pas uniquement origine, on va dire, sociologique. Maintenant, sur la question du coût des études, il est évident que pour certaines populations d'étudiants, on est conscient, ça va être une difficulté financière auquel ils ne s'attendaient pas. Et que là où il y a des éléments qui sont positifs, et c'est aussi pour ça que à titre personnel, je suis plutôt satisfait de cette annonce, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement complémentaires. D'une part, il va y avoir des mesures d'accompagnement qui vont être des bourses supplémentaires du gouvernement français. Et il faut être lucide, depuis quelques années, il y a un rapport du Sénat qui l'avait montré, dans un com de Campus France. Pour Campus France, c'était au cours de l'hiver dernier, qui montrait une baisse conséquente depuis plusieurs années du nombre de bourses du gouvernement français. Et c'était une insuffisance pour notre attractivité. Le deuxième point, c'est que, en étant praticien, homme de terrain, c'est que ce que moi je note, c'est que grâce à ces ressources nouvelles, je vais aussi pouvoir créer mes propres bourses. Et donc avoir aussi une politique dynamique d'internationalisation de mon propre établissement qui sera peut-être un peu différente de l'établissement d'à côté, etc. Donc j'y vois beaucoup d'avantages à pouvoir mettre en œuvre ce type de système.
Alors en effet, Édouard Philippe a annoncé qu'il y aurait davantage de bourses, davantage d'exemptions de frais d'inscription à l'université, mais on va dire que pour l'instant c'est relativement inaudible, et ce qui a été retenu par la plupart des étudiants étrangers susceptibles d'être concernés, eh bien c'est que ces frais d'inscription vont très fortement augmenter. Je vous propose d'écouter Zouaina Salim. Elle est actuellement en master dans votre ville, Pierre Van Veg, à Rennes. Et cette jeune omano-burundaise se pose beaucoup de questions sur son avenir universitaire.
Je me dis que j'avais un projet de commencer un doctorat après mon master, mais aujourd'hui, je me demande si ça sera toujours possible. Est-ce que je rentre ou je vais faire mon doctorat, je vais faire ma thèse peut-être dans un autre pays qui m'offrira beaucoup plus d'avantages qu'ici, quoi, parce que ce n'est plus possible, ça ne sera plus possible de pouvoir financer autant d'argent. Donc, on est beaucoup à penser, rentrer ou peut-être changer de pays carrément pour finir ses études, parce que ça sera plus possible.
Alors là, on voit ce constat, c'est que ça risque de coûter trop cher. Et je vais vous poser à tous les deux la question. On va commencer par Léonard Moulin. De savoir, finalement, est-ce que ça va pas s'arbitrer entre peut-être des étudiants plus fortunés et peut-être moins d'étudiants plus talentueux?
Alors, à mon avis, là où ça va s'arbitrer, c'est que le gouvernement, par cette mesure, il cherche pas à attirer les étudiants qui sont toujours venus en France, à savoir principalement les étudiants d'Afrique francophone et les étudiants du Maghreb. Quand on regarde les chiffres des étudiants en mobilité, c'est plus de 40% des mobilités internationales en 2015. Par contre, il y a une marge de progression qui est énorme sur les étudiants qui viennent notamment d'Amérique et d'Amérique du Nord plus spécifiquement, et des pays asiatiques. Et donc, c'est avec les frais d'inscription, c'est ce que le gouvernement cherche à faire, c'est attirer ce type d'étudiants des classes moyennes hautes dans leur pays qui ont un pouvoir d'achat en augmentation. Et donc, il s'agit pas en fait d'avoir plus d'étudiants étrangers, mais vraiment de capter une part du marché des étudiants internationaux, qui a beaucoup augmenté depuis le début des années 2000. Et donc, ça va vraiment modifier le pays d'origine des étudiants qui vont arriver en France.
Donc finalement, c'est une espèce de logique de compétitivité dans un monde presque capitalistique de l'université, c'est-à-dire que les universités anglo-saxonnes, européennes, asiatiques sont en compétition et il faut aller chercher les étudiants et qui ont peut-être les poches les plus profondes, c'est ça, Pierre Van Veg?
Non, je pense que ça, c'est un petit peu, c'est un peu exagéré comme vision. Je modérerais tout cela, d'une part parce que il y a des dynamiques liées à types de mobilité différentes aujourd'hui. La provenance des étudiants, effectivement, bouge beaucoup, mais par exemple, si on regarde la mobilité des étudiants africains, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, elle est plus ou moins en dynamique, on va dire, relativement modeste vers la France, et elle augmente profondément vers des pays tels que la Chine. Aujourd'hui, la Chine est un pays qui a atteint un seuil assez remarquable, et c'était un objectif qui était fixé de 2020, c'était d'avoir 500 000 étudiants internationaux. Ils l'ont atteint. Et dans cette population, ces 50% viennent d'Afrique. Donc ces populations bougent. En plus, par ailleurs, un autre élément, et après je compléterai pour vous répondre, c'est que les mobilités évoluent dans le sens où elles sont de plus en plus régionales et de moins en moins sur des grands trajets. Pour une raison simple, c'est que l'assiette d'étudiants en mobilité a considérablement augmenté, puisque le nombre d'étudiants à travers le monde a beaucoup augmenté. Il n'en demeure pas moins qu'on a que à peu près 4 à 5% d'étudiants qui sont en réalité en mobilité, donc beaucoup moins que ce que l'on peut imaginer, même si ça fait un nombre conséquent en augmentation, et que ces étudiants sont d'assises, on va dire, financières inférieures à ceux qui bougeaient jusqu'à présent, et qu'effectivement, s'ils cherchent une mobilité, ils la cherchent dans une aire géographique beaucoup plus restreinte. Maintenant, pour répondre à la question de changement de type d'étudiants, ce que l'on cherche quand même dans nos universités, c'est certes former des jeunes, mais si possible d'attirer les plus talentueux, puisqu'on est dans une compétition aujourd'hui à l'échelle de nos universités dans le domaine de la recherche et de l'innovation, et que meilleurs sont les étudiants qu'on va capter, mieux ils seront dans nos laboratoires pour développer des travaux de recherche et forcément avec un retour derrière. Donc on arrive effectivement à non pas chercher les plus fortunés pour les attirer, non, on veut les meilleurs. Et pour attirer les meilleurs, il va falloir leur mettre de bonnes conditions de travail. Et ça sous-entend donc d'être capable de développer des nouvelles ressources pour les faire venir. Donc peut-être que dans les meilleurs, il y a des gens qui sont fortunés, qui sont en capacité de payer des frais d'inscription élevés. Et puis il y aura des très très bons étudiants et ce seront sûrement des critères, et c'est là où il y a encore un flou dans les annonces du Premier ministre de lundi dernier, c'est quels seront les critères qui permettront de mettre en place des bourses, celles qui seront du gouvernement français, celles que nous, établissements, nous pourrons mettre en place. Et à partir de là, est-ce que si on peut jouer sur des critères d'excellence, ben faire en sorte d'attirer, pas forcément les plus fortunés, mais d'avoir les moyens de faire venir les meilleurs.
Alors, si on reprend ce qu'a dit tout à l'heure dans ce qu'on a écouté d'Edouard Philippe, il disait que c'était aussi pour répondre à une forme d'injustice fiscale. C'est-à-dire que le Premier ministre disait, pour le reprendre, pas mot à mot, mais pour reprendre son idée, que finalement, un étudiant étranger relativement fortuné qui vient en France et qui paye 170 euros pour s'inscrire à une licence, eh bien, finalement, il le mérite peut-être un peu moins qu'un étudiant français dont les parents payent les impôts en France depuis des années et qui, lui, va payer la même somme. Léonard Vincent, cette idée de cette injustice finalement fiscale et cette finalement ces étudiants qui coûteraient de l'argent à la France et n'en rapporteraient pas beaucoup, c'est quelque chose que vous validez par les chiffres?
Alors non, il y a une étude là-dessus qui a été réalisée par BVA pour Campus France qui montre que les étudiants en mobilité internationale rapportent plus qu'ils ne coûtent, c'est 4,65 milliards d'euros par an qu'ils rapportent contre 3 milliards de dépenses pour l'État, donc ils rapportent déjà plus. Et ensuite, si on essaye un peu d'étendre la logique présentée par Edouard Philippe en disant si leurs parents ne payent pas d'impôts en France, il n'est pas normal que l'éducation soit gratuite. On pourrait avoir le même raisonnement en disant que les adultes qui n'ont pas d'enfants en France ne devraient pas payer d'impôts non plus pour l'éducation, puisqu'ils n'en bénéficient pas directement pour leurs enfants. Et donc on rentre dans une logique où chacun va payer ce qu'il consomme. Et donc l'éducation, elle est plus vue comme un bien collectif qui est financé par la solidarité intergénérationnelle, mais comme un bien privé qu'on achète. Par ailleurs, ce que je voudrais dire en plus, c'est que chaque année, donc il y a un solde positif des étudiants en mobilité internationale sur le plan financier, il y a aussi un solde à long terme qui là n'est pas calculé, c'est les contributions qui vont laisser au fil du temps à l'État. Donc ça peut être effectivement via les impôts une fois qu'ils restent en France après leur diplôme, mais aussi des liens commerciaux, diplomatiques, etc., culturels qui eux ne sont pas monnayables. Donc pour conclure, pour moi, la véritable question d'équité, c'est de rappeler avant tout que chaque jeune en France a le droit d'être formé et que là, avec cette mesure, on va dissuader les moins fortunés de venir étudier en France.
D'accord. Alors Léonard Moulin, j'arrête pas de vous appeler Léonard Vincent, mais c'est parce qu'on a un journaliste à RFI qui s'appelle comme ça, d'où la confusion. Je suis désolé. Pierre Vondevec, je pense que vous êtes à peu près d'accord finalement sur la question que l'un des enjeux quand même de ces étudiants étrangers non installés en Europe, c'est qu'à terme, il faut les faire rester pour justement rééquilibrer un petit peu cette contribution.
Oui, alors c'est effectivement un point extrêmement important, c'est-à-dire que accueillir des étudiants étrangers, de les former, de les amener au plus haut niveau si c'est possible, c'est un investissement aussi du contribuable français, c'est une évidence, et que derrière, ce qu'on peut espérer pour certains d'entre eux, c'est pourquoi pas rester s'installer en France et effectivement développer une activité et autres. Alors il y a des outils qui sont en cours de mise en place, entre autres je pense à une loi qui est passée, qui date de septembre 2018, qui est une loi sur l'immigration qui est extrêmement intéressante parce qu'elle dit qu'un étudiant qui a un diplôme de master français, il peut retourner à l'issue de ses études dans le pays, mais s'il souhaite revenir en France, eh bien il peut utiliser cette loi pour avoir un visa de longue durée, de long séjour pour pouvoir développer, pourquoi pas trouver un travail en France ou développer une activité aussi en France. Donc ça, c'est une forme de retour finalement d'investissement du contribuable français.
Alors j'ai une question là-dessus parce que vous parliez justement de la filialisation des universités française dans les différentes zones et notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que un étudiant qui va avoir un master par exemple à Dakar d'une université française, il va pouvoir bénéficier de ce visa?
Alors je l'espère bien parce que si c'est un diplôme de mon établissement, c'est un diplôme français qui a été fait certes chez le partenaire, mais ça reste un diplôme d'une université française. Donc, a priori, ça devrait lui donner exactement les mêmes droits que s'il avait fait le diplôme en France. Ce qui m'amène à évoquer les mesures d'accompagnement qui ont été évoquées par Édouard Philippe. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. On parlait des bourses, on parlait des exemptions qui permettaient aussi pour nous de développer nos stratégies, nos politiques. Mais il y a à côté un effort que moi je souligne parce qu'il est remarquable et parce que c'est une grande préoccupation aussi, c'est est-ce que l'internationalisation de nos établissements peut être soutenue économiquement par l'État français ? C'est le cas aujourd'hui puisqu'on nous annonce quand même des enveloppes budgétaires non négligeables à hauteur de 20 millions d'euros par an pour aller développer des formations et des campus délocalisés, et en particulier en Afrique. Et là, pour nous, c'est extraordinaire, parce que ça va nous permettre de développer nos propres diplômes avec des partenaires africains. Donc, il y a déjà quelques exemples, et des universités franco-pays, il en existe ici ou là. Mais de renforcer ça avec un soutien économique, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ça va nous permettre, par exemple, de proposer des licences dans des zones géographiques où les étudiants n'auraient pas vocation à pouvoir venir en France, d'être formés à nos méthodes, avec nos méthodes d'apprentissage, nos niveaux de diplôme, de transférer nos compétences aussi auprès de nos collègues. Et puis tout doucement, peut-être certains de ces étudiants, de les repérer parce qu'ils sont très bons, de leur proposer des bourses, pourquoi pas, puisque nos établissements seront en mesure de mettre en place des dispositifs de bourses et de les faire venir ensuite chez nous en master, par exemple, pour poursuivre leurs études.
Léonard Moulin, vous avez un point de vue sur cette question. On va faire rapidement parce qu'il y a encore un petit sujet qu'on veut aborder à la fin. Il faut se garder quand même 2-3 minutes. Sur ce sujet de la filialisation des universités françaises à l'étranger, c'est selon vous une bonne disposition ?
Alors, à mon avis, ça, en soi, c'est une bonne disposition si elle ne s'accompagnait pas en même temps d'une mise en place des frais d'inscription. Puisque du coup, ce que ça va faire, c'est que les étudiants qui devaient venir étudier en France, qui avaient pour projet de venir étudier en France, vont peut-être effectivement se détourner sur ce type de dispositif qui, pour le coup, est intéressant. Mais du coup, c'est pas la même chose que de venir étudier en France, de s'imprégner de la culture locale, d'être au contact de ce qu'est l'enseignement supérieur français et puis la culture française, et de le faire dans son pays d'origine, et peut-être d'être moins enclin ensuite à une mobilité pour un autre cycle d'études ou pour un métier.
Alors, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'une des principales raisons pour les étudiants étrangers de venir en France, c'est la culture française. C'est en tout cas dans les classements de l'UNESCO. On va écouter un dernier extrait. C'est de nouveau Édouard Philippe, et après je vais vous faire réagir.
La presse fait état d'un rapport de la Cour des comptes qui inviterait le gouvernement à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants français. Je vais vous dire les choses d'une façon très claire, monsieur le député, qu'il n'est ni dans les projets de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ni dans les projets du gouvernement de procéder à cette augmentation pour les étudiants français ou pour les étudiants européens. Et que cette invitation qui, paraît-il, aurait été lancée au gouvernement par la Cour des comptes, restera une invitation à laquelle nous ne donnerons pas suite. Je vous remercie.
Voilà, il nous reste un tout petit peu moins de 2 minutes. Alors le sujet est évidemment hautement inflammable en France. Pierre Van Weg, vous êtes persuadé que Édouard Philippe va tenir sa parole et que ce n'est pas le doigt mis dans l'engrenage, cette augmentation des frais?
J'en suis intimement convaincu parce que finalement l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants internationaux avait été évoquée pendant la campagne électorale et il avait été également évoqué en parallèle qu'on ne toucherait pas aux frais d'inscription des étudiants nationaux.
Léonard Moulin.
Ah oui, il a été évoqué qu'on ne toucherait pas aux frais d'inscription des étudiants nationaux. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que, ayant travaillé sur la question, c'est que tous les établissements en France qui ont commencé par faire payer différemment les étudiants extra-communautaires, on les a toujours fait payer plus cher que les étudiants nationaux. Et au fur et à mesure des augmentations de frais d'inscription, les étudiants extra-communautaires ont toujours payé plus que les étudiants nationaux. C'est le cas à Sciences Po, à Dauphine, dans les écoles publiques d'ingénieurs. Et par ailleurs, une des choses qu'on peut noter, c'est que depuis une quinzaine, vingtaine d'années, il y a en France des incitations à mettre en place un système de financement par frais d'inscription. Et il y a une stratégie qui est très bien écrite dans un rapport de 2004 qui s'appelle Éducation et croissance et qui dit qu'il faut adopter une stratégie des petits pas, c'est-à-dire commencer par mettre des frais d'inscription là où c'est le plus simple, là où ça concerne le moins de personnes possible pour éviter justement de se heurter à un front de résistance, c'est une citation des auteurs. Et donc, depuis voilà, toutes ces années, on voit qu'en fonction des établissements, en fonction des types d'étudiants, on augmente. Et là, on arrive vraiment à un nouveau niveau qui, à mon avis, voilà, fait qu'on va avoir une augmentation.
Merci beaucoup, Léonard Moulin. Alors, on n'est pas encore dans ce scénario. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INED. Pierre Van de Weck, vice-président de l'Université Rennes 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous lors de ce débat.